Bonsoir. Plusieurs assemblées provinciales de la RDC ont élu ce lundi 11 mars 2019 dans leur bureau définitif. La majorité des bureaux seront dirigés par la plateforme Franc Commun pour le Congo, FCC en sigle, qui rafle 20 bureaux sur 24. Par ailleurs, sur les 24 bureaux élus, deux seront dirigés par des femmes. Il s'agit des assemblées provinciales du Bazouélé et celle du Maniema. Quelle analyse faire de cette élection et quels sont les défis qui attendent ces nouvelles provinces, ces nouvelles assemblées provinciales? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 12 mars 2019. Participe au débat professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Il est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Soudi Kimputu Alimassi, expert en décentralisation. La réalisation me signale qu'il n'est pas... Il est en ligne. Maître Soudi, bonsoir.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, il est journaliste et aussi analyste politique et économique. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Gaylor Mouteb, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. À mon humble avis, le fait pour le FCC de rafler les contrôles des 20 assemblées provinciales montre qu'il n'y a pas espoir pour le changement. Ceci est la conséquence de voter un président et de ne pas voter les députés des coalitions qui soutiennent le président. Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio
Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
Depuis hier lundi, les bureaux définitifs des assemblées provinciales de la RDC ont été installés. Le vote a eu lieu dans 24 provinces, excepté le Nord Kivu et le Maïndombe. Sur les 24 assemblées provinciales, le Front commun pour le Congo contrôle 20 bureaux. Les 4 autres bureaux sont partagés entre l'AMUKA, le MLC et l'UDPS. Le point avec vous, Jeff Ngoye.
Sur 5 provinces du Grand Équateur, la coalition FCC gagne la présidence de 4 assemblées, dont Chuapa, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Équateur. L'AMUKA l'emporte seulement dans la Mongala avec le candidat du MLC, Gala Floribert. Au Bazouélé, c'est une femme, Augustine Dako, de AAC, membre du FCC, qui est élue présidente de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu a comme président Pasteur Zachary Luamira. Au Kasai, Aloïs Mushitungenge, du PPRD, est élu président. Dans cette province, tous les 5 postes du bureau définitif reviennent au FCC. Au Kasaï oriental, Yves Mwamba Kadima, de l'UDPS Tshisekedi, est le président. Alomami Chibangu Mwakas Valdo du FCC est élu président du bureau définitif de l'Assemblée. Dans le Olomami, c'est un autre candidat FCC, héritier Katandula, qui passe. Dans le Tanganyika, le député Joseph Kitenge est élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Autour, elle voit venir Afunde Afongenda du FCC. Gabriel Kyungu Wakumwanza est battu par le FCC Kachoba à la présidence de l'Assemblée du Haut-Katanga. Lualaba a pour président Louis Kamwenyi du FCC. Ce bureau est composé de 5 membres, dont 4 sont du FCC. Seul le rapporteur adjoint est issu de Ensemble pour le changement. À Kinshasa, c'est le pasteur Godefroy Mpoyi du FCC qui est élu président de l'Assemblée provinciale. Gilbert Bukunga prend les rênes de l'Assemblée provinciale de la Tshopo. Dans le Maniema, Gertrude Kitembo du FCC est élue présidente de l'Assemblée. Et au Congo central, c'est Pierre-Anatole Matusila de l'AMUKA.
Merci Jeff Ngoye pour tous ces détails. Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, quelle lecture vous faites de cette élection? 20 bureaux des assemblées provinciales seront dirigées par le FCC.
Bon, écoutez, moi je n'ai aucun avis à émettre, étant donné que par principe, je n'aime pas trop me prononcer sur les résultats électoraux, surtout lorsque ceux-ci sont entachés de beaucoup de contradictions. Tout le monde sait que depuis la publication des résultats provisoires, il y a de gauche à droite des contradictions, de contestations. Mais si tant est que la donne actuelle est qu'il y a une majorité présidentielle qui s'est dégagée, et qu'au niveau des assemblées provinciales et au niveau des assemblées parlementaires, c'est l'autre camp qui est majoritaire,
ne peux que le constater. Mais cela à dire que ça reflète réellement les résultats des élections ou bien la volonté réelle du peuple, je n'ai aucun avis à émettre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce qui transparaît maintenant, c'est les résultats de ce qui a été constaté. Et c'est cela, on fait avec.
Est-ce qu'il fallait un peu s'y attendre, professeur Gaspard Ngondankoï, parce que on sait que le FCC a eu beaucoup de députés provinciaux?
Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est pour cette raison-là que moi, je dis toujours que si le FCC est effectivement la première force politique nationale au niveau des assemblées provinciales et nationales, eh bien, tout cela sera constaté sur le terrain à travers leur action, etc.
Il y a Gaylor Mouteb de Lubumbashi qui estime que le fait pour le FCC de rafler 20 assemblées, la tête des 20 assemblées provinciales montre qu'il n'y a pas espoir pour le changement. Ceci est la conséquence de voter un président et de ne pas voter les députés des coalitions qui soutiennent le président.
Ça peut relever d'un procès d'intention parce que on peut pas dire d'avance que ils ne sont pas animés d'une volonté de changement. Ils peuvent toujours se convertir si jamais cet auditeur pense qu'ils ont été d'un certain système. Mais il faut croire en l'homme. Peut-être qu'ils vont surprendre. Mais en tout cas, voyons voir sur le terrain ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que les assemblées provinciales ont leur rôle. Les présidents ou les bureaux qui ont été élus ont leur rôle. Mais le plus important, c'est de savoir utiliser les prérogatives qui sont les leurs dans le cadre du régionalisme constitutionnel actuel. Parce que on a souvent tendance à privilégier les appartenances politiques aux compétences réelles qui sont dévolues aux députés provinciaux, aux ministres provinciaux, et etc., aux autorités provinciales de manière générale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'analyse doit se focaliser non plus tellement sur l'appartenance de tel ou tel député provincial, tel ou tel bureau envers tel parti politique, mais davantage sur leur compréhension des pouvoirs qui sont les leurs dans le cadre du régime déjà défini par la Constitution. Moi, je pense que c'est ça l'intérêt du débat. Ce n'est pas de savoir si tel appartient à telle famille politique ou à telle autre, mais c'est de savoir comment ils vont utiliser leur pouvoir dans le cadre des constitutions et des lois de la République pour impulser le développement des provinces et des entités de base. C'est ça le plus important. Ce n'est pas l'appartenance à telle ou telle famille politique.
Vous pensez que ce n'est pas important de savoir les membres du bureau appartiennent à quelle famille politique? Vous estimez que ce n'est pas important, professeur?
Ah ben, tout ça, c'est important dans le cadre de l'évaluation statistique de l'action des différents gouvernements qui vont se succéder à la tête des provinces. C'est important d'une certaine manière. Mais le but ultime, ce n'est pas que ce soit telle famille politique ou telle autre qui dirige telle ou telle province. Le plus important est que quelle est la famille politique qui a produit quoi dans telle province pour que nous puissions être en mesure demain d'évaluer leur action. C'est pour cette raison que moi j'insiste sur le fait que ce n'est pas le fait que telle province est dirigée par telle majorité qui importe, mais c'est surtout le fait de savoir comment ces majorités qui ont été créées dans les différentes provinces vont maintenant s'atteler enfin aux tâches du développement des provinces. Parce que l'impression que nous avons eue depuis maintenant plusieurs années, c'est que on a perdu trop de temps dans des débats politiques qui est majoritaire, qui est populaire, etc. Maintenant, la grande question, et ce sont là les grands défis, c'est que tous ceux qui ont raflé la majorité dans les provinces, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour le développement réel des entités provinciales et pour le développement du pays en général? Ce n'est pas le fait qu'on appartienne à telle ou telle famille politique.
Mais est-ce que la composition politique des bureaux des assemblées provinciales installées ne peut pas avoir un impact sur l'action du chef de l'État?
Alors, pour que l'action des bureaux des assemblées provinciales ait un impact sur l'action du chef de l'État, il faut connaître les règles du jeu telles que définies par la Constitution et les lois du pays. Et pour cela, Madame Kelly, je pense que nous avons besoin de plus que 45 minutes pour cette émission. Mais schématiquement, ce qu'il faut dire, c'est que les rapports entre les provinces et le président de la République sont des rapports qui sont définies dans le cadre du régionalisme constitutionnel défini par notre loi fondamentale, qui veut que les provinces aient une autonomie politique, administrative, financière et technique dans les matières réparties par la Constitution, et que les autorités provinciales, y compris les chefs de l'État, exercent les leurs dans le cadre de cette Constitution. Et si donc les uns et les autres comprennent leur rôle tel que défini par la Constitution et les lois du pays, eh bien, les décisions qui vont être prises et les actions qui vont être mises en pratique dépendront non des appartenances politiques, mais des prérogatives des uns et des autres, telles que définies par le droit.
Merci, professeur. Maître Soudi Kimpoutou Alimassi, expert en décentralisation. Maître Soudi, comment vous analysez cette élection?
Oui, la réaction ou les différentes réactions des populations autour de cette question après les élections provinciales, pour moi, augure une certaine confusion d'abord des scrutins et une petite ignorance qui a trait direct aux règles du jeu qui sont consacrées par notre Constitution et nos lois en vigueur en matière de mise en œuvre de la décentralisation. Je crois que ces différents scrutins qui ont été organisés vont nous servir de matière didactique, effectivement, parce que ici, je voulais souligner que la population ne devra pas confondre les élections présidentielles à celles qui sont organisées pour les institutions provinciales. Le professeur l'a dit, nous sommes dans un régionalisme politique. Les rapports entre les institutions provinciales et l'institution présidente de la République sont réglementés et très limités. D'abord, il y a le mécanisme de l'article 69. Ensuite, il y a ce que la loi sur la conférence des gouverneurs essaye d'organiser. Donc, ici, qu'une famille politique ou une autre puisse gagner en province, tout est fonction de la confiance que la population veut accorder aux élus constituent aujourd'hui les assemblées provinciales. Le deuxième élément, c'est que, comme j'ai suivi le reportage de tout à l'heure qui donnait les têtes des différentes assemblées provinciales, mais il ne faudra pas oublier qu'au niveau des assemblées provinciales, on n'élit pas les listes. Donc, c'est chaque poste qui passe aux élections dans l'ensemble. Donc, vous allez trouver dans certaines assemblées provinciales, ou la plupart d'ailleurs, il y a soit à la tête un membre du FCC et dans d'autres postes, un ou l'autre poste, un membre de l'opposition, etc., etc. Donc, ici, par rapport à l'espoir du changement, il faudra que les nouvelles équipes qui viennent d'entrer en fonction, qui ont de grandes missions, entre autres, d'élire les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui vont mettre en place des gouvernements provinciaux qui ont pour mission de valider les différents gouvernements de province, il faudra que la notion de la redevabilité puisse être inculquée à tous les nouveaux élus. Et c'est là que je reviens vraiment dans le cadre de la politique de mise en œuvre de notre décentralisation, parce que dans la plupart de ces assemblées provinciales, c'est pratiquement tout au plus 20% des anciens députés qui ont été renouvelés. Donc, les autres sont soit de nouveaux, mais qui connaissent plus ou moins quelque chose en matière de la politique, ou soit des gens qui n'ont jamais été dans la scène politique. Donc, nous revenons pratiquement presque dans la case de départ lors de la mise en place des premières assemblées provinciales des années 2007, où il faudra un accompagnement du pouvoir central, parce que le processus...
Est-ce que ça veut dire que les problèmes qu'on a rencontrés en 2007 pourront revenir encore avec ces nouvelles assemblées?
C'est possible que ça revienne si il n'y a pas un mécanisme qui puisse sécuriser d'abord ces institutions-là. Et je pense que la problématique des mots d'ordre, des corruptions, lorsque, par exemple, les députés provinciaux ne savent pas élire en toute liberté leurs sénateurs, leurs gouverneurs, etc., etc., et il va s'installer un certain nombre d'incertitudes ou de manques de confiance entre les différents animateurs des institutions, et qu'on peut assister à ce qu'on a appelé le phénomène des motions de censure, des motions de défiance qui ont existé. Mais si les différents gouverneurs de province, par exemple, sont élus en toute confiance, en toute liberté, qu'on pourra laisser aux assemblées provinciales d'élire leurs gouverneurs de leur choix, ceci peut solidifier ces institutions et on peut assister à des gouvernements provinciaux qui vont durer, et dans cette durée, il y a possibilité d'encourager l'évaluation des différentes actions de ces gouvernements pour aller vers le développement local, parce que l'objectif de la décentralisation, c'est le développement local. Tous les gouvernements des anciens gouvernements provinciaux qui sont passés n'ont pas que mal travaillé. Il y a quand même des provinces aujourd'hui où vous pouvez passer, vous vous rendez compte qu'il y a le travail que les gouverneurs a pu faire avec la bénédiction de ces assemblées provinciales qui ont existé avant ces élections.
Merci,
donc,
maître.
Il faudra tirer les leçons de ces provinces-là pour permettre à ce que les nouvelles assemblées provinciales puissent suivre le pas. Et le secret, c'est de permettre aux députés de faire l'élection de leur gouverneur de leur choix. Voilà.
Merci, maître Soudi Kimputu Israël Moutala. Vous êtes journaliste et analyste politique et économique aussi. Comment vous analysez cette élection du bureau définitif des assemblées provinciales de la RDC?
Bon, merci de la parole. Mon analyse de ces élections, c'est que par rapport aux résultats électoraux, c'est une suite logique. Le FCC avait dit qu'il avait la majorité aussi bien au niveau du Parlement qu'au niveau des assemblées provinciales. Et donc, ils ont raflé 20 bureaux sur les 24 possibles. Et donc, ça prouve qu'ils ont la majorité dans les assemblées provinciales. Et donc, c'est vraiment dans la logique de résultat des scrutins. Mais il y a quand même une distorsion par rapport au résultat de la présidentielle. Si je vois les voix de Fayoulou et les voix de Tshisekedi, ça vous fait à peu près 13 millions de voix. C'est l'opposition prise ensemble. Et donc, en 2006, par exemple, Joseph Kabila avait gagné la présidentielle et il avait une majorité dans les assemblées provinciales et au niveau du Parlement. C'était logique. Les Congolais ont élu un président, ils lui ont donné une majorité dans les assemblées au niveau du Parlement et au niveau de l'Assemblée provinciale. En 2011, il n'y avait pas d'élection au niveau local, au niveau de l'Assemblée provinciale, mais Joseph Kabila a gagné la présidentielle et il a eu une majorité au niveau du Parlement. Nous sommes en 2018. Félix Tshisekedi a gagné la présidentielle et il n'a pas la majorité dans les assemblées provinciales, ni au niveau du Parlement. Bon, on peut mettre les résultats en demi-teinte de l'UDPS par la mauvaise organisation qui était la sienne, parce qu'ils ont aligné moins de députés, ils n'étaient pas assez préparés, ils n'avaient pas assez de moyens pour se déployer sur l'ensemble du territoire. Mais si je mets ensemble les plateformes cash, ensemble, et la Mouka, MLC, tout ce monde là-bas, ça fait quand même qu'il y avait du monde comme candidat au niveau de l'Assemblée provinciale, qu'il y avait du monde comme candidat au niveau de la députation, qu'il y avait du monde en tout cas à tous ces niveaux-là. Et que maintenant qu'il y a une distorsion, les 14 millions obtenus par Fayoulou et Tshisekedi, et qui n'ont pas pu obtenir la majorité, les équilibres n'ont pas pu se faire au niveau des assemblées provinciales, il y a quand même une distorsion. Les résultats électoraux ne sont pas logiques.
Alors, il y a cet auditeur de Lubumbashi qui est revenu sur ça. Il estime, lui, que c'est la conséquence de voter un président et de ne pas voter les députés des coalitions qui soutiennent le président.
Bon, c'est possible aussi qu'il y avait une focalisation à outrance sur la présidentielle. de la part des opposants. Ils se sont aussi là, on cherche un peu à expliquer. Ils se sont beaucoup focalisés sur la présidentielle plutôt que sur les scrutins associés comme les provinciales et les législatives. Il y a une autre explication aussi, c'est que en matière de stratégie, la majorité présidentielle sortante, l'ex-majorité présidentielle, était plus outillée. Ils avaient une véritable centrale électorale. Il y avait une stratégie. C'est pas par hasard que la plupart des plateformes de la majorité commencent par A. C'est parce que, justement, comme ils savaient qu'il y aurait beaucoup de candidats, avoir A, c'était pour que leur candidat soit mieux positionné sur l'écran. Donc, pour des personnes analphabètes, c'est plus facile de cliquer sur une personne qui est là, qui apparaît sur l'ordinateur, si tu n'as pas l'écran de l'ordinateur, si tu n'as pas un numéro en tête qui te vient vite. Donc, c'était des stratégies comme ça qu'ils avaient mis ensemble et tout ça. Donc, on peut mettre ça aussi justement sur le fait qu'il y avait une mauvaise, sensibilisation électorale. Donc les militants de l'opposition n'ont pas été bien encadrés. Et puis il y avait aussi un phénomène camouflage. Ça veut dire que les candidatures de la majorité présidentielle n'étaient pas totalement assumées. Et vous avez vu que la plupart des candidats FCC n'avaient pas mis ce label là. Et donc il y a eu une partie de la population qui a été induite en erreur. Donc il y a peut-être ça aussi, ça peut expliquer cela, mais tout ne s'explique pas par ces stratagèmes.
Alors deux femmes comme présidente des deux bureaux définitifs, hein, des assemblées provinciales, c'est quand même une première en RDC assez à saluer, même si c'est encore insignifiant.
Oui, c'est à saluer. Mais bon, moi, pour moi, c'est que la question de genre, c'est vrai, elle peut aussi justement s'analyser autour des femmes qui accèdent à des postes de responsabilité. Mais pour moi, la question de genre n'est pas une question d'accéder au poste de... C'est de faire progresser justement la cause du genre. Ça veut dire que ce soit un homme ou une femme, mais où est la place de la femme dans la société? Ça doit être une place éminente, elle doit avoir tous les droits, elle doit être défendue, d'être promue et tout ça. Le genre doit faire partie d'une culture républicaine, d'une culture citoyenne. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les hommes, à cette époque-ci, puissent penser que la femme est inférieure à l'homme. Donc c'est quand même, voilà, il ne faut pas qu'à travail égal, qu'un homme puisse toucher plus que la femme. Donc pour moi, ça peut pas passer. C'est des pensées moyenâgeuses, rétrogrades. Et donc, la question du genre, il y a de progrès. Mais j'y constate quand même que les deux femmes sur les 24 présidents des assemblées provinciales, c'est moins de 10%. Bon, on avait dit qu'il fallait progresser autour de 30%, c'est ça l'objectif. Mais là encore, une fois, la clé pour l'émancipation de la femme, c'est notamment l'éducation, pour moi, qui est la clé de tout. Il faudrait absolument que les femmes puissent aller, puissent être mieux éduquées, avoir le même temps d'éducation. Parce que moi, quand j'ai révisé mes cours, mes sœurs, parfois, elles faisaient la vaisselle. Donc, il faut absolument donner aux femmes les mêmes chances.
La chance à tout le monde. Merci, Israël Moussala, professeur Ngondankoy. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Depuis Kisangani dans la province de la Diop. Les raflements des 20 bureaux des assemblées provinciales étaient un danger permanent non seulement pour les caches, mais aussi pour toute la République. Durant les deux mandats passés du président Kabila, bien que ce parti politique et Ali étaient majoritaires au sein des assemblées provinciales, il y avait quand même une sorte d'équilibre politique. Mais actuellement, le FCC a presque tout conquis. Il y a lieu d'affirmer que même si le président Félix a opté pour une cohabitation avec le FCC, qui se sent en position de force vit son record à tous les niveaux, le nouveau président sera buté quelque part dans la réalisation de sa vision, car il aura en face de lui, vous voulez dire, un partenaire en position de force qui voudra toujours imposer sa vision. Et alors, maintenant, l'élection du président des assemblées provinciales projette déjà celle des gouverneurs et sénateurs, car ce sont les mêmes députés qui vont tirer. Il en sera de même pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Peut-on alors croire à une matérialisation de l'alternance en RDC?
Professeur Ngondankoy, comment vous répondez à cet auditeur?
Bon, d'abord, Madame Kelly, je vous ai déjà dit que la question de la détermination de la majorité ou bien de la légitimité issue des élections de 2018, du 30 décembre 2018,
ne se pose pas aujourd'hui. Donc je ne me prononce pas là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet et la carte politique qui nous est présentée actuellement est extrêmement volatile pour pouvoir se prononcer scientifiquement et objectivement. N'oubliez pas qu'il y a des organisations qui ont observé ces élections, et notamment l'Église catholique, qui ont donné des résultats différents. Et donc le débat n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, s'il faut constater la réelle politique telle qu'elle se présente, l'auditeur compare cela avec ce qui s'est passé bien avant les élections actuelles, parce que n'oubliez pas que avant les élections de décembre 2018, c'est toujours la même majorité qui contrôlait les provinces. Mais pour moi, le critère n'est pas tant de savoir qui contrôle la province que de savoir qui effectivement fait quoi par rapport aux textes qui sont mis en place pour le développement du pays. Moi, je crois que le critère d'évaluation doit être celui-là. Et si alternance, il doit y en avoir, c'est dans les politiques publiques à mener que nous allons effectivement, objectivement, sentir la différence entre le régime ancien et le régime actuel. Ça peut être le même qu'hier, tout comme ça peut être le tout nouveau, mais ce qui importe pour la population, c'est qu'il y ait une véritable différence dans leur vie quotidienne. Alors là, je vois tous les besoins de base de la population, que ce soit le logement, l'alimentation, le transport, la santé, l'éducation, etc. C'est là où on va sentir la véritable alternance, c'est pas dans les hommes. Bon, moi, j'évite toujours de mener des discussions sur les hommes, qui est compétent, qui n'est pas compétent, etc. Là, il n'est pas le problème du développement. Le problème du développement, c'est que si vous êtes élu à tel poste, on vous a attribué telle responsabilité, qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie de vos concitoyens? Au-delà de vos appartenances politiques, au-delà de vos liens idéologiques, etc. Voilà la question. Et donc, pour moi, aujourd'hui, même si certains pensent que l'alternance doit se constater d'abord dans le changement des hommes, et ça c'est, je pense, un premier pas, mais qui n'est pas suffisant, mais pour moi, le critère fondamental de l'alternance réside dans la différence des politiques publiques qui sont mises en place pour qu'on puisse atteindre l'objectif final. Finalement, cet objectif c'est quoi? C'est que les citoyens de ce pays se sentent mieux du point de vue de leurs besoins sociaux de base que je viens d'énumérer.
Maître Soudi a relevé tout à l'heure un aspect important, c'est l'accompagnement de ces assemblées et provinciales, professeur Ngonankoy, pour éviter tout ce qu'on a vécu avec les anciennes assemblées de 2007.
Ben, il est évident que si nous avons dans les nouvelles assemblées provinciales des personnes qui ne maîtrisent pas encore le système politique, le système constitutionnel du pays, comment fonctionnent les institutions aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial, il est évident qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Et ça, ça ne concerne pas que les gens qu'on dit a priori ne pas avoir fait de grandes études. Ça concerne tout le monde dans la pratique pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Cet accompagnement est nécessaire, mais je pense que cela dépend des volontés des différentes assemblées provinciales et des différentes autorités provinciales. Car ne l'oublions pas, et je le répète, la constitution que nous avons depuis 2006, qui est une constitution de compromis, a instauré ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel, qui est un régime, qui est une forme d'État intermédiaire entre le fédéralisme que certains avaient réclamé et l'unitarisme que d'autres avaient encore défendu. Et pour couper la poire en deux, afin d'éviter les extrêmes de tel ou tel régime politique, on a dit que c'est le régionalisme constitutionnel. Et ce régionalisme constitutionnel suppose que les provinces puissent avoir leurs compétences propres, leur autonomie politique, administrative, financière et technique qui doit être respectée par le pouvoir central.
Merci.
Parce que dans le cadre de cet État, les provinces ne sont pas sous la tutelle des autorités centrales. Et je crois que cela doit être souligné. Et s'il y a des choses qu'on a déplorées dans le régime ancien, c'est entre autres cela, le fait que le ministre de l'Intérieur se soit cru être une autorité hiérarchique qui peut suspendre le gouverneur, qui peut interdire les assemblées provinciales de se réunir, etc., sans que la Cour constitutionnelle, qui a été instituée comme organe de régulation des conflits, soit saisie. C'est cela qui doit changer profondément. Et je crois que les assemblées provinciales qui viennent d'être élues et demain les gouverneurs qui vont voter également, doivent prendre conscience de cela, qu'ils ont des pouvoirs qui leur sont reconnus dans la Constitution, et au-delà de leur appartenance politique, ils ne doivent pas aliéner l'autonomie politique des provinces au profit du pouvoir central, parce qu'il est contrôlé par une telle famille politique.
Merci, professeur. On revient tout à l'heure. On revient vers vous tout à l'heure pour parler des défis qui attendent ces nouvelles assemblées provinciales. Mais en attendant, avant cela, on va prendre cette question pour mettre Soudi, une question qui nous vient du Maniema.
C'est Soumaïle David Moussafir de la province du Maniema. Rien n'est à s'étonner face à ces résultats, car le FCC s'était déjà doté bien longtemps d'une politique de s'éterniser au pouvoir en se procurant beaucoup de députés. Avec cette tendance, on a même le risque d'avoir la majorité des ministres alliés du FCC dans le nouveau gouvernement qui sera formé. Et par voie de conséquence, étant majoritaire dans le gouvernement, ce régime ne fera que dicter sa volonté au régime entrant. Croyez se débarrasser de ce régime, mais dommage, c'est le même régime qui revient avec sa figure dictatoriale. Vraiment, on a moins d'espoir d'aboutir à un développement et à un réel changement, mais plus encore à des bonnes réponses aux défis de la population sur l'étendue du territoire national, étant donné que c'est presque la même équipe qui travaille, à la différence seulement du chef de l'État.
Maître Soudi, les auditeurs reviennent beaucoup sur les changements. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent, donc il n'y a pas beaucoup de chance qu'on parle de changement dans ce pays. Maître Soudi, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on a un petit souci avec la ligne de Maître Soudi, Israël Moutala. Comment vous répondez à cet auditeur?
J'aimerais d'abord, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement du professeur Ngonda Koy sur justement le régionalisme constitutionnel qui a été consacré dans notre constitution, mm-hmm. qui donne des prérogatives exclusives aux provinces. Des prérogatives immenses, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, et voilà. Il y avait aussi cette question de l'autonomie politique, financière et administrative, mais il y a eu la révision de la Constitution de 2011 qui a un peu, contrarié le principe plein total du régionalisme constitutionnel, parce qu'on a donné maintenant au président de la République la possibilité, depuis 2011, de révoquer un gouverneur de province. Et donc c'est ce petit bémol que je voulais apporter à ce régime qui a été voulu en 2005 par le constituant. C'était justement de donner des prérogatives pleines et entières aux provinces et tout ça. Donc voilà à peu près.
Quels sont les défis Israël quels sont les défis qui attendent ces nouvelles assemblées provinciales selon vous?
Écoutez, une assemblée provinciale, son rôle c'est lequel? C'est le contrôle justement de l'exécutif provincial, c'est de voter des lois provinciales qu'on appelle à caractère provincial qu'on appelle des édits. Donc c'est le contrôle et légiférer. Donc les bureaux est là pour faire un travail administratif, permettre à ce que les députés soient dans des bonnes conditions justement pour faire leur travail. Et voilà, c'est le contrôle. Mais il y a eu, ils ont des faiblesses structurelles, ça veut dire que parce que le régionalisme n'est pas totalement assumé, les provinces attendent tout de Kinshasa alors qu'ils ont d'énormes prérogatives. Je pense que les assemblées provinciales doivent notamment avoir un rôle important à jouer, surtout pour la mobilisation des ressources. Il ne faut pas qu'ils attendent la conférence de gouverneurs que préside notamment le chef de l'État ou les réunions interinstitutionnelles pour poser leurs problèmes. Je pense que pour attendre les retenues à la source ou les rétrocessions sur ce qu'ils auront à produire ou pas, il faudrait d'abord qu'ils puissent développer justement une autonomie propre en levant des ressources propres, parce qu'ils ont une taxe importante qui est la taxe sur l'impôt foncier, ils ont des taxes sur la consommation, ils ont la taxe sur les revenus locatifs, donc ils ont des moyens justement de s'assurer une certaine véritable autonomie financière plutôt que d'attendre toujours de Kinshasa. Le prof a dit tantôt qu'il dépendait trop de Kinshasa. Mais comment ne vont-ils pas trop dépendre de Kinshasa? Parce qu'ils ont tout leur regard tourné vers Kinshasa en termes de rétrocession et tout ça. Donc Kinshasa a beaucoup de moyens de gêner les provinces, parce que les provinces sont pauvres, ne sont pas structurées. Et politiquement, elles sont à la botte de la majorité. Ils ne s'assument pas en tant que province, en tant que prérogative que leur reconnaît la Constitution. Mais plutôt, ils agissent comme des courants politiques.
Merci Israël Moutala. On me signale que Maître Soudi est en ligne. Maître Soudi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Abidjan.
Je m'appelle Elie Bahati depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Ceci était prévisible. Selon notre analyse, ces élections augmentent encore le niveau du risque de déchirement sociopolitique en RDC. Ceci dit, la situation politique en RDC devient de plus en plus fragile au niveau national comme au niveau provincial. Quelques éléments démontrent cette fragilité, à savoir le vote n'était pas libre, mais imposé par les chefs des partis des regroupements politiques. Deux, les candidats élus étaient ceux de l'obédience et de l'autorité morale du FCC et non de la volonté du peuple. Les candidats n'ont pas tenu compte de l'équilibre genre ni de l'équilibre ethnique. Enfin, on a observé à travers ces résultats, le manque de l'équilibre entre les CACH et les FCC, ce qui ne facilite pas dans le futur la cohabitation entre ces deux pouvoirs politiques. En conclusion, nous dirons, il est encore grand temps que le CACH négocie avec les FCC pour que l'exécutif et le Sénat soient composés de manière équilibrée et représentative par toutes les parties prenantes, entre autres les forces politiques et la société civile, pour sauver la RD Congo. Je vous remercie.
Maître Soudi. Maître Soudi, est-ce que vous êtes en ligne? On a un souci avec la ligne de Maître Soudi. On va essayer de le relancer encore une fois par la réalisation. Vous pouvez répondre brièvement, excusez-moi Israël Moutala, à la réaction de Bahati qui nous écrit, qui nous appelle depuis Abidjan.
Bon, je comprends encore une fois, ce n'est pas la composition du bureau, par d'autres forces ou pas. Il y a des lois qu'il faut respecter. Aujourd'hui, les bureaux des assemblées reflètent le rapport de force politique au sein de ces assemblées provinciales-là. Donc, mais c'est au niveau peut-être de l'Assemblée nationale, au niveau national, où on dit par exemple que tel poste, par exemple le poste de rapporteur ou de deuxième vice-président, revient à l'opposition. Mais souvent dans les assemblées provinciales, tout dépend du règlement d'ordre intérieur. Souvent, il n'y a pas cette élégance politique-là. Mais il faut absolument encore un autre défi qui demeure, c'est assurer les nouvelles assemblées provinciales, les présidents des assemblées provinciales doivent être à la hauteur des débats publics, d'assurer la police de débat de manière honnête, équitable. Ça sera aussi un défi de la qualité des débats là-bas, parce que souvent on a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de bagarres, parce que les présidents des assemblées provinciales ne donnaient pas la parole à l'opposition, et ça se terminait souvent en bagarre, et le ministre de l'Intérieur était obligé de suspendre les assemblées. On avait vu que quand il y avait un opposant qui avait une motion de censure ou de défiance contre un gouverneur, le gouverneur allait soudoyer le président de l'Assemblée nationale, il ne voulait pas convoquer l'Assemblée, la plénière, et il y avait des conflits comme ça. J'espère que les nouvelles assemblées, s'il faut sauver un gouverneur, il faut qu'on le sauve au sein de l'hémicycle. Donc, ils doivent être à la hauteur de leurs charges publiques. Donc, il ne faut pas s'amuser avec les charges publiques, il faut les assumer avec dignité.
Merci Israël Moutala. Professeur Gaspard Ngondakoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, quels sont les défis et qui attendent de ces nouvelles assemblées provinciales?
Mais je l'ai dit déjà, hein, Madame Kelly, j'ai commencé par dire que compte tenu des suspicions qui persistent sur la véracité des résultats électoraux de décembre 2018, il n'est pas permis de tirer des conclusions définitives, ni d'ailleurs de prévoir ce qui va arriver après cet épisode. Mais bon, la réelle politique demande qu'on puisse constater qu'il y a ces données-là qui viennent d'être données. Ce qu'il faut, c'est que au-delà des formations politiques, au-delà de l'appartenance des uns et des autres partis politiques, que toutes les institutions puissent comprendre leurs prérogatives et
comme je ne cesse de le dire, dans le cadre du régionalisme constitutionnel actuel, les provinces ont énormément de pouvoir dans le cadre de leur autonomie. Et il leur appartient d'assumer leurs responsabilités et de ne pas considérer tout le temps qu'elles sont sous la tutelle de l'autorité provinciale, plutôt centrale, de quelque bord politique que cette autorité appartienne. Maintenant, nous avons les assemblées provinciales qui ont élu leur bureau définitif. Demain, nous espérons que les députés provinciaux vont voter des édits, vont contrôler les gouvernements provinciaux dans le sens d'apporter le développement économique et social des provinces, avant toute considération d'ordre partisan, comme par exemple l'appartenance à tel ou tel groupement politique. Madame Kelly, je peux par exemple invoquer cette situation que nous avons connue depuis très longtemps. Vous pouvez comprendre que si le gouvernement national libère par exemple des fonds pour le paiement des enseignants ou pour le fonctionnement des entités, des écoles, et que le gouverneur de province puisse se permettre d'extourner, comme on nous a toujours dit, hein, avec l'électrocommission, cet argent au niveau central parce qu'il y a des soutiens qui existent ici, est-ce que vous pouvez comprendre que cela puisse être acceptable dans le cadre du régionalisme constitutionnel, alors même que les entités provinciales ont le pouvoir de retenir à la source les recettes, 40% des recettes à caractère national, au-delà de leurs recettes personnelles. C'est cela. Si ces bureaux définitifs vont être là au service de leur famille politique, alors là, nous allons dire haro au régionalisme constitutionnel. Mais si ceux qui ont été élus vont d'abord mettre à cœur le souci du développement de leurs entités et utiliser pour ce faire les prérogatives qui leur sont reconnues par la Constitution et par les lois, je pense qu'ils iront même au-delà de leur famille politique pour surprendre la population.
Merci, professeur Gaspard Ngondankoy. On va considérer cela aussi comme votre conclusion parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. On me signale que Maître Soudi est de nouveau en ligne. Maître Soudi, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Maître Soudi. Brièvement, vous allez aussi conclure. Selon vous, quels sont les défis qui attendent ces nouvelles assemblées provinciales de la RDC? On l'a encore perdu, Israël Moutala. Votre conclusion?
Bon, ma conclusion est que les assemblées provinciales, il y a des bureaux. Les bureaux doivent maintenant absolument se montrer absolument dignes de la tâche qui leur a été confiée. Mais les résultats aujourd'hui présagent, c'est que sera le Sénat de demain, c'est que sera les gouverneurs de demain. Les gouverneurs de demain, il ne faut pas se leurrer, seront FCC en grande partie, les sénateurs également. Donc, mais cela n'empêche pas de faire avancer l'intérêt général. Le président de la République a toujours encore d'immenses pouvoirs. Parce que la présidence de la République, l'institution présidente de la République est un centre d'impulsion. Donc s'il donne le ton d'une gouvernance exemplaire, je pense que ça peut se répercuter sur les assemblées provinciales et tout ça. Mais encore une fois, pour corriger les abus, il faudra absolument que la Cour constitutionnelle joue pleinement son rôle et qu'une fois qu'il y a conflit au sein entre les assemblées provinciales ou les exécutifs provinciaux avec le gouvernement central, qu'on recourt à la Cour constitutionnelle.
Merci Israël. Moutala, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la préparer. Guy Maté, Donna Madimba. Merci à Alain Goy qui était à la prise de son. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.